Mais nuageux avec percée de soleil, dégagement en après-midi et maximum 15. La météo à Saint-Félix vous est présentée à toutes les heures.
CFLX 95,5. La radio communautaire de l'Estrie.
Bienvenue à cette nouvelle émission de La Rage du Peuple, aujourd'hui le 9 septembre. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs sujets variés, une bonne variété musicale aussi. On va continuer notre concept de patrimoine, si on veut, militant et révolutionnaire, avec plusieurs chansons qui font partie du patrimoine, véritablement.
Pour vous donner une idée des chansons, on a la Cucaracha, qui est la révolution mexicaine, Bella Ciao, le sang des martyrs. La révolution de Évariste de 1968, la musique thématique des Apatistes. Puis on va aussi expliquer notre chanson-thème, la chanson-thème de notre émission, La Rage.
Puis aussi, on va avoir plus tard une chronique sur le spectacle du Rash. On va aussi faire une présentation du Rash, qu'est-ce que le Rash. Et puis, pour terminer, on va avoir une chronique de Jean-Martin sur la IWW, ou Industrial Worker of the World.
Ouais, puis ça va être en lien avec une théorie ou en fait une notion marxiste super importante qui est l'abolition du salariat. Donc, c'est tout un projet de société nouveau qui est l'abolition du salariat, qui est quand même une perspective révolutionnaire communiste.
Et pour commencer l'émission, on va faire un court retour sur l'actualité. Donc, pour commencer tout de suite, on pourrait mentionner le fait qu'il y a eu, durant la Convention républicaine, des manifestations qui avaient été organisées par plusieurs groupes d'opposition. Par contre, ce qui a été assez incroyable et plutôt inquiétant, c'est que la plupart de ces groupes-là auront été, si on veut, empêchés, et ce, pas le jour même, mais bien des semaines à l'avance. La police de Saint-Paul, où se déroulait la Convention, aura véritablement mis sur écoute des centaines de personnes, toutes personnes, ceci incluant des journalistes, toute personne qui pensait organiser la manifestation était sous écoute, surveillée et éventuellement arrêtée. Et quand on parle ici d'arrestation, ce n'est pas l'arrestation classique, c'était véritablement l'escouade anti-émeute qui débarquait chez des suspects pour les menacer armes au poing et les menotter, tout en bien sûr sécurisant le périmètre. Plusieurs voisins se sont retrouvés avec un fusil sous le visage par les policiers de l'escouade antiterroriste. Et le jour même des manifestations, il y aurait eu beaucoup de heurts. La police n'aura donné aucun ultimatum, n'aura lancé aucun message avant d'utiliser des gaz lacrymaux, des poivres et aussi des bombes sonores qui assourdissent momentanément les manifestants.
En faisant ma recherche sur la IWW, je me suis rendu compte que dans leur campagne pour la syndicalisation des Starbucks aux États-Unis, on va y revenir dans ma chronique, ils ont syndiqué des Starbucks dans la ville où est-ce que ça a eu lieu, la Convention républicaine, et ces syndiqués-là qui sont rentrés, qui rentraient dans le marché ou le centre d'achat où est-ce qu'ils travaillent, ben, ils se sont tous fait arrêter. En tout cas, il s'est passé de quoi, là? J'ai pas compris trop parce que je ne suis pas bilingue à 100%, mais il y a des personnes qui s'indiquent dans des Starbucks avec la IWW qui se sont fait arrêter eux aussi lors de la Convention républicaine.
Bref, c'est véritablement un climat de peur qui est instauré dans cette ville-là à la veille de la Convention. Puis, un peu plus tôt, ça avait été la même chose à Denver pour la Convention démocrate, où il y avait eu aussi des manifestations d'organiser cette fois-ci seulement. C'est plutôt des cas de brutalité policière qui ont été observés. On a beaucoup d'exemples sur Internet. On voit des militants se faire littéralement insulter, puis ensuite frapper par des policiers. Et lorsque ceux-ci s'adressent aux journalistes, on les voit se faire arrêter arbitrairement par la police. Puis on s'imagine facilement dans quelles conditions ces personnes-là vont être entreposées, si on veut. Puisque lors d'une convention républicaine, je crois que c'est en 2000.
C'était à New York, en tout cas, c'est ça.
C'était à New York. La police avait, si on veut, créé une prison, étant donné que, bien sûr, les prisons étaient déjà pleines.
Une zone de rétention,
ouais,
en fait. Oui,
une zone de rétention. En fait, c'était un ancien hangar qui n'était même pas désinfecté.
Non, il était encore toxique, là. Puis là...
Où ce qu'on, tout simplement, on empilait à travers des cages, si on veut, les manifestants.
Non, il n'était pas en cage, il était libre, là. C'est comme des entrepôts où est-ce qu'ils font des raves, là, habituellement, ouais. Là, gros entrepôts industriels. Sauf que ça n'avait pas été nettoyé. Puis là, ils ont juste mis les gens là-dedans. Je pense qu'il y avait encore les... comment on appelle ça, les morceaux de plastique que les anti-émeutes...
Les tie wraps.
Ouais, il y avait encore... Je pense qu'il y avait encore les tie wraps autour du poignet. Puis...
Puis les affiches avertissaient les militants que s'ils tentaient quoi que ce soit, ils allaient être taisés automatiquement, le fameux pistolet électrique. Bref, beaucoup de plaisir en perspective pour les militants aux États-Unis qui doivent manifestement de plus en plus avoir affaire avec un État policier qui est là, bien sûr, pour assourdir toute tentative d'expression de la part de quiconque qui ne rentre pas dans la ligne mainstream, si on veut, des médias, mais aussi des différents partis au pouvoir. On s'entend, il n'y en a tout simplement que deux.
Il y a d'ailleurs une auteure qui s'appelle Naomi Wolf, qui a écrit un essai sur les États-Unis comme un État totalitaire. Elle essaie de trouver les points communs entre à la fois le stalinisme, le nazisme, puis elle essaie de l'extrapoler pour être capable d'arriver à une définition du totalitarisme qui est un peu plus pratique. Donc, je pense que les États-Unis, il manque sur 10 que la présence de milices paramilitaires dans les rues pour pouvoir être définie pratiquement comme un État totalitaire.
Mais sur ce point-là, on peut se dire qu'avec l'utilisation de plus en plus fréquente de compagnies privées pas de militaires, mais de mercenaires, comme Blackwater, qui se ferait même sur le territoire américain, on peut se dire que ces milices paramilitaires-là existent. Mais bon, c'est un autre débat. Pour continuer sur un autre sujet, on a appris aujourd'hui que Bush a annoncé une réduction d'environ 8000 hommes en Irak d'ici 2009, dont environ 3500 vont être renvoyés en Amérique au cours du mois suivant. Seulement, par contre, bien sûr, il y a toujours une contrepartie à tout ça. 4500 hommes vont être, envoyés en Afghanistan, et ça d'ici janvier. Donc, on voit tout de suite qu'ils essayent de sécuriser un périmètre peut-être plus facile à contrôler que l'Irak actuellement, dans lequel les Américains sont embourbés. Bon, sinon, du côté d'Israël, il y a un ministre israélien qui, dans un souci de respect de la démocratie et, bien sûr, de la diplomatie internationale, a suggéré d'enlever tout simplement le président iranien, le ministre des Retraités, Rafi Eitan, qui a déjà été un ancien agent du Mossad, qui est les services secrets israéliens, propose d'enlever le président iranien pour le traduire en justice devant la Cour pénale internationale.
Tu veux
à
dire
la
le
Haye.
Kidnapper. Hein?
Oui, le kidnapper. Okay. Pour l'amener devant la Cour internationale à La Haye, parce qu'il accuse de tenir les mêmes propos qu'Hitler le faisait. Bien sûr, on est peut-être, c'est certainement évident qu'il y a une certaine haine dans les propos du président iranien Ahmadinejad. De là à, si on veut... monter contre, une fois de plus, le peuple iranien, contre les Israéliens. Je crois que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'arbitrairement d'enlever le président iranien pour l'amener en justice. Et bien sûr, on n'a aucune idée quels seraient les chefs d'accusation.
Pendant ce temps-là, dans un sous-sol de la ville de Sherbrooke, Antigus de 17 ans propose d'enlever le président des États-Unis pour le poursuivre devant le Conseil de justice populaire. Non, c'est une farce.
Bref, on se demande à quel point, qui est le plus diplomate des deux, le président iranien ou l'ancien agent du Mossad?
Ouais, ben en fait, je trouve que c'était un petit peu ça ma farce. Dans le fond, c'était que dans le fond, ils font la justice quand ça leur plaît bien, là. Comme quand on regarde le support des États-Unis à l'État colombien qui est en train de modifier la Constitution pour que Alvaro Uribe puisse rester un mandat de plus au pouvoir parce que c'est un bon pion états-unien. Puis tous les crimes, en fait, ce président-là, il est accusé, il est sous enquête pour complicité avec des milices paramilitaires de droite. Fait que moi, je trouve ça plus inquiétant, la collaboration des États-Unis avec le gouvernement colombien que...
Les délires du président iranien.
Que les délires du président iranien, c'est ça.
Puis il faut dire d'ailleurs aussi que les services secrets israéliens n'ont pas nécessairement non plus... la vie, on ne voit pas nécessairement par le passé fait que des actions vraiment intéressantes. On pense, il y a un Canadien qui a été victime d'un des agents du Mossad parce que celui-ci travaillait sur des super canons. Il voulait mettre au point des canons à très longue portée. Puis il travaillait à ce moment-là pour, je crois que c'est dans les années 90, il travaillait pour l'Irak. Alors le Mossad, les services secrets ont tout simplement pensé qu'il était... C'est une bonne idée de mettre fin à ces jours pour tout simplement mettre les choses sur la glace. Mais il n'avait pas uniquement travaillé pour l'Irak, il avait aussi travaillé pour les États-Unis et un autre pays d'Amérique du Sud, si je me souviens bien. Bref, sinon, on va se déplacer aux États-Unis ou en Californie, plus précisément, où un puissant syndicat veut destituer Schwarzenegger, le gouverneur de la Californie. C'est le syndicat des gardiens de prison de Californie qui lancer la première étape d'une procédure de destitution du gouverneur qui fait actuellement face à une grave crise budgétaire dans le milieu carcéral. Ils affirment entre autres que le gouverneur d'un a absolument rien fait, puis que c'est un des plus gros déficits budgétaires de l'histoire de la Californie. C'est une des plus longues impasses budgétaires aussi. On se souvient qu'un peu plus tôt, en 2003, Schwarzenegger s'était fait élire puisque son prédécesseur démocrate avait été destitué par un référendum étant donné qu'il avait lui aussi amené l'État dans une crise financière aiguë. Puis, par contre, M. Schwarzenegger a bien promis de ne pas se laisser intimider par ces types. On sait aussi que ce syndicat-là représente environ 34 000 membres du milieu carcéral. Et ils sont depuis 2006, ils sont en conflit avec le gouvernement de la Californie sur la question des conditions de travail. Donc, des gens qui sont, bien sûr, tannés un peu d'attendre, puis qui, on l'espère, vont mener une lutte pour tout simplement ramener les choses à leur place.
Sur ce, on s'en va faire une courte pause musicale. On s'en va écouter le groupe français Rage Orgasm avec la chanson Les Supporters. À tout de suite.
CFLX FM 95,5.
CFLX.QC.CA.